Électrochoc, le podcast des électrons libres.
Quand les normes tuent l'innovation, de la Flandre moyenâgeuse à l'Europe d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons plonger dans les rouages d'une machine économique qui s'est grippée d'elle-même.
Exactement, Max. Et pour comprendre cette mécanique implacable, il faut remonter le temps. Imaginez la scène. Il est 6h01 du matin à Armentières, en Flandre française. Nous sommes en octobre 1562. Un ouvrier, un foulon, qui travaille la laine, vient d'être arrêté. Son crime est d'avoir possédé 2 pièces de drap non traitées chez lui après cette heure fatidique.
C'est vertigineux. Procès, amende, casier. Et il n'est pas le seul. Ce matin-là, 2 de ses collègues subissent le même sort.
Sur le papier, à cette époque, la Flandre est la première puissance textile d'Europe. C'est la Silicon Valley du Moyen-Âge. Mais dans les faits, elle est déjà morte.
Ses meilleurs artisans fuient. Ses marchés lui échappent. Et pendant que ses juges condamnent des tisserands pour des draps trop étroits de quelques centimètres, l'Angleterre, elle, exporte ses propres tissus dans toute l'Europe, jusqu'à Anvers, sous le nez des Flamands.
Ce récit dépasse la simple anecdote historique. C'est l'histoire d'une économie qui s'est suicidée par excès de normes. Un scénario qui résonne de manière troublante avec ce que vit notre continent européen aujourd'hui face aux industries d'avenir. Prenons un instant pour analyser comment ils en sont arrivés là.
Au XIIIe siècle, les draps de Flandre habillent tout le monde occidental, du roi de France au marchand vénitien. Gand, Bruges, Ypres. Ce monopole se repose sur un savoir-faire inouï, mais aussi sur un système de contrôle qualité d'une rigueur absolue.
Les fameuses guildes. Elles codifient chaque étape dans des ordonnances locales très précises. Largeur du drap, poids, couleur, horaire, tout est réglementé. Au départ, c'est un formidable outil de confiance. Cela garantit une réputation mondiale. Mais insidieusement, cette garantie est devenue une cage.
Les archives sont glaçantes. En avril 1563, un certain Daniel de Lequen est jeté en prison pour un drap trop étroit de 50 cm. Un autre est poursuivi alors qu'il tissait pour sa mère veuve. La loi ne fait aucun sentiment. Pire encore, contester la norme devient un crime en soi. Un artisan a été condamné simplement pour avoir parlé de manière irrespectueuse aux inspecteurs.
C'est un contrôle total qui va jusqu'à la vie privée. Un tondeur de drap vu dans une taverne avec des gens de mauvaise réputation est semé de reprendre le travail sous peine de bannissement. C'est une asphyxie sociale et économique. Et pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, l'Angleterre fait un choix radicalement opposé.
Oui, un siècle et demi plus tôt, en 1331, le roi d'Angleterre, Édouard III, invite les tisserands flamands à venir s'installer chez lui. Sa philosophie est claire. Il préfère créer des capacités productives plutôt que de taxer et brider les échanges. Aucune guilde, aucun inspecteur ne viendra mesurer leurs pièces à l'aube.
Le résultat est sans appel. La Flandre bannit ses propres artisans pour des infractions mineures et l'Angleterre les accueille à bras ouverts. Les comtés de Kent et de Suffolk deviennent le berceau d'une industrie redoutable. La Flandre formait les meilleurs ouvriers du monde, les a chassés, et l'Angleterre en a récolté les fruits.
Et le drame flamand ne s'arrête pas là. Cette rigidité a littéralement bloqué l'innovation technologique. Quand un nouveau métier à tisser horizontal à pédale multipliant la productivité par 3 ou quand le rouet se développe, les guildes flamandes disent non.
Elles refusent ces innovations pour protéger leur segment haut de gamme, car ces nouvelles techniques dégradent très légèrement la finesse du fil. Résultat, le règlement de production de Gand en 1546 est rigoureusement identique qu'à d'un siècle plus tôt. 200 ans de production à l'identique sans bouger d'un iota.
L'Angleterre, libérée de ses carcans, adopte ces techniques, produit des tissus plus légers, moins chers, et conquiert la bourgeoisie montante, un marché immense que la Flandre avait méprisé.
C'est ici que le parallèle avec notre époque devient saisissant, Céleste. Regardons l'Europe d'aujourd'hui. Prenons l'agriculture. Un chercheur français travaille sur un blé résistant à la sécheresse grâce aux nouvelles techniques génomiques. Aux États-Unis, ces variétés sont déjà cultivées en plein champ.
En Europe, une décision de justice de 2018 a assimilé ces techniques aux vieux OGM. Il a fallu des années de procédures, des votes, des négociations interminables pour espérer une autorisation. Et pendant ce temps, la sécheresse n'attend pas. La science est là, mais la norme bloque tout.
Même chose dans l'industrie automobile. La norme Euro 7 a failli paralyser les constructeurs européens déjà engagés dans une transition électrique extrêmement coûteuse. Il a fallu que 8 pays montent au créneau pour faire reculer Bruxelles. 2 ans perdus en arguties administratives pendant que nos concurrents mondiaux avançaient à pas de géant.
Et quand la norme ne bloque pas la production, elle empêche carrément les projets de naître. Pensez à ce projet de mine de lithium dans l'Allier, crucial pour nos batteries électriques, bloqué par des procédures sur des espèces protégées. L'État français a dû inventer une loi d'urgence pour contourner ses propres règles. C'est totalement kafkaïen.
Et le domaine le plus critique pour notre avenir n'y échappe pas, l'intelligence artificielle. L'Europe multiplie des textes pour freiner son déploiement sous des prétextes éthiques qui cherchent souvent une volonté de contrôle. On risque de voir nos entreprises productrices de modèles de langage embrouillées dans des procédures judiciaires permanentes.
C'est le syndrome flamand par excellence. Comme les guildes d'autrefois, nos législateurs pensent protéger quelque chose de précieux. Notre qualité, notre éthique, notre modèle. Mais ils finissent par asphyxier l'écosystème sous le poids des règles, laissant le marché aux mains de concurrents plus agiles.
Bien sûr, il ne s'agit pas de dire que toute règle est mauvaise. Les normes environnementales protègent des biens communs essentiels. Mais la leçon de la Flandre est cruelle. Une norme qui protège les acteurs en place finit toujours par les protéger contre l'innovation.
Quand contester une règle devient une infraction, la norme n'est plus un outil, c'est un frein au service d'une rente obsolète. Mais l'histoire de la Flandre se termine sur une note d'espoir. Elle ne s'est pas effondrée totalement, elle a su changer de modèle.
Exactement. Bruges, après avoir perdu la bataille du drap, a fini par ouvrir ses quais et ses rues à tous les marchands du monde, sans leur imposer ses vieilles ordonnances. En laissant circuler librement les hommes et les capitaux, elle a donné naissance à la première bourse d'Europe du Nord.
La richesse a suivi la fluidité, pas la contrainte. Les marchands venaient à Bruges pour la liberté qu'elle offrait, pas pour ses règlements.
L'Europe est à ce carrefour aujourd'hui. Elle a encore les moyens d'éviter le déclin, à condition d'accepter cette vérité historique que les guildes ont ignorée jusqu'au bout. Ce ne sont pas les règles qui créent la richesse, mais l'innovation et la liberté.
Soutenez les électrons libres, abonnez-vous sur lel.media.